Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous abordons les questions d'actualité à la lumière de la Bible, afin de mieux comprendre notre monde et vous faire part de l'espoir que Dieu offre.
Aujourd'hui encore, nous nous penchons sur le problème des catastrophes naturelles.
J'en parle avec notre invité Flavien, qui est ancien dans une église dans le sud de la France. Il habite une région souvent touchée par de violentes tempêtes et des inondations. Lors de notre précédente émission, nous avons appris que les dérèglements responsables des catastrophes naturelles n'étaient pas dans les desseins de Dieu à l'origine de la création, mais qui sont le résultat de la désobéissance de l'homme et de la malédiction qui, depuis, pèse sur la terre. Nous avons aussi appris que les choses ne resteront pas ainsi indéfiniment, mais qu'un jour, Dieu interviendra et tout rentrera dans l'ordre. Nous n'aurons plus alors à craindre ces catastrophes. Flavien, de quoi voulez-vous parler aujourd'hui?
Je pense qu'il serait bon de réfléchir sur la pire des catastrophes naturelles qui ait jamais frappé l'humanité. Il s'agit d'une inondation dont le récit apparaît dans le livre de la Genèse.
Et en quoi peut-on dire que cette inondation est la pire qui ait jamais touché la Terre?
En ce qu'il s'agit d'une inondation universelle par laquelle l'humanité entière fut engloutie, à l'exception d'une famille qui, grâce à Dieu, fut épargnée.
La Bible nous explique-t-elle la cause de cette inondation?
Oui, bien sûr. Lisons d'abord quelques versets dans Genèse, chapitre 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. »
Racontez-nous, s'il vous plaît, ce qui arrive par la suite.
Vous pouvez lire ce récit dans la Bible, au chapitre 6 à 9 du livre de la Genèse, dont je vais faire un bref résumé. Il y avait une famille qui se distinguait de toutes les autres en ce qu'elle se conduisait de façon juste devant Dieu. Il s'agissait de Noé, de sa femme et de ses fils, ainsi que de leurs femmes. Alors, pour épargner cette famille, Dieu demanda à Noé de construire une arche, un genre de très grand bateau, dans lequel Noé et sa famille devraient se réfugier en prenant avec eux un couple de chaque espèce d'animal. Commença à tomber une pluie qui dura plusieurs mois. L'eau recouvrit la terre, anéantissant le monde entier. Quand les eaux finirent par baisser, Noé, sa famille et les animaux sortirent de l'arche et commencèrent à repeupler la terre.
Tout à l'heure, en lisant quelques versets de la Bible, nous avons appris que cette inondation eut lieu parce que Dieu avait jugé et condamné les êtres humains devenus trop mauvais. La question que je voudrais poser est celle-ci. Quand une région ou une ville subit une catastrophe naturelle, peut-on dire que cela arrive suite à la méchanceté de ses habitants? Autrement dit, Dieu envoie-t-il des catastrophes naturelles comme signe de son jugement contre un pays ou un peuple?
Effectivement, lorsqu'un malheur de cette envergure arrive, les gens ont tendance à se demander pourquoi. Beaucoup attribueront ce genre d'événement à la colère des dieux, ou bien des esprits, ou même des ancêtres. D'autres, par contre, essaieront d'apporter des explications scientifiques à ces phénomènes.
Mais que dit la Bible? Et que devons-nous apprendre du récit de Noé?
Pour en revenir à votre question, les catastrophes naturelles sont-elles ou non une punition envoyée par Dieu? Voici d'abord un point très important. Nous ne devons pas penser que les gens frappés par les catastrophes naturelles sont plus mauvais que ceux qui en sont épargnés. Ceux qui meurent dans de telles circonstances et ceux qui perdent tout ne le méritent pas plus que les survivants sortis indemnes. Cependant, tout comme au temps de Noé, ces événements doivent nous servir à la fois d'avertissement, mais aussi d'invitation à nous réfugier en Dieu.
Commençons par cette idée d'avertissement. De quoi s'agit-il?
D'abord, les catastrophes naturelles sont révélatrices d'un problème. L'ordre naturel est déréglé. La création ne fonctionne pas selon les desseins originaux du Créateur. À son époque, Noé avertit ses contemporains en disant que s'ils ne cessaient pas de se comporter avec violence et méchanceté, il se produirait une inondation. Mais après ce désastre universel, Dieu a promis qu'il ne se reproduirait plus. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus jamais d'inondation qui engloutirait le monde entier. Toutefois, il ne faut pas se faire d'illusions. Les êtres humains sont tout aussi mauvais, égoïstes et violents aujourd'hui qu'à l'époque de Noé. Aujourd'hui, nous entendons parler de catastrophes naturelles, et certains d'entre vous les vivent de près, que ce soit sécheresse ou inondation, tremblement de terre ou fléau de sauterelles. Ces désastres, plus ou moins importants, nous rappellent que quelque chose ne va pas dans ce monde et qu'une malédiction pèse sur lui. Dans un sens, le monde naturel ne fait que renvoyer l'image du comportement des humains. L'humanité a introduit la violence et l'injustice dans le monde. Alors il ne faut pas s'étonner que Dieu permette à sa création de se retourner contre les hommes avec la même violence et la même injustice, dans le but de nous amener à réfléchir. Ces catastrophes existent pour nous rappeler la proximité de la mort qui nous attend tous, nous rappeler aussi la fragilité de la vie et la vanité des biens matériels dans lesquels certains placent toute leur confiance. Nous rappeler aussi que Dieu n'approuve pas notre façon de nous comporter devant lui.
Alors, si les hommes commençaient à se conduire de façon juste et paisible, l'harmonie reviendrait-elle régner dans la nature et les catastrophes naturelles cesseraient-elles?
Je pense que oui. Cependant, il faut être lucide. Noé a averti pendant de longues années les gens de son époque, mais aucun n'a voulu l'écouter. Aujourd'hui, à travers les catastrophes naturelles, nous pouvons dire que Dieu crie à nos oreilles, mais peu lui prête attention. Toutefois, pour celui qui désire l'écouter, il existe un secours, un refuge.
Pouvez-vous en dire plus à ce sujet?
Noé et sa famille étaient justes aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu a pourvu en leur donnant le moyen de passer à travers les eaux de l'inondation et en leur offrant l'espérance d'un nouveau départ. Aujourd'hui, dans la bonne nouvelle apportée par Jésus-Christ, Dieu nous offre le moyen de nous faire pardonner notre méchanceté, notre violence, notre égoïsme. Il nous offre le moyen de devenir juste à ses yeux. Il faut simplement y croire et laisser Jésus, le Seigneur, régner sur nos vies.
Alors ainsi nous serons à l'abri de toute catastrophe naturelle?
Non, il est évident que les chrétiens, tout comme ceux qui ne le sont pas, subissent les conséquences dévastatrices des catastrophes naturelles. Noé lui-même a subi le déluge, mais pas de la même manière. En effet, le chrétien a l'assurance que Dieu est avec lui en toutes circonstances, malgré tout ce qui peut lui arriver, tout comme Dieu a été avec Noé pendant cette période effrayante où le déluge balayait tout. Le chrétien a également cette assurance que Dieu est son bien le plus précieux et que tous les désastres du monde ne pourront porter atteinte à cette relation d'amour. Le chrétien a cette espérance. Le jour viendra où Dieu recréera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous y serons présents et les catastrophes naturelles en seront absentes, tout comme ceux qui continuent à refuser les avertissements donné par Dieu de diverses manières.
Nous allons poursuivre le thème des catastrophes naturelles avec André que nous accueillons sur le plateau. Il nous fera part de ses pensées sur un récit trouvé dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27, qu'Hélène va nous lire.
Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?»
La puissance de la nature rappelle aux hommes leur fragilité. Nous ne sommes que peu de choses devant elle et la violence des tempêtes peut susciter la crainte de la mort, tout comme ses disciples qui se trouvent au beau milieu d'un lac juste au moment où se déchaînent le vent et les vagues. La peur de la mort les saisit, mais dans leur panique, ils savent vers qui se tourner. Oui, ses disciples, dont quelques-uns sont des marins expérimentés, s'adressent à Jésus, le seul à vivre paisiblement la situation, car il dort dans un coin de la barque. À Jésus, ils crient leur malheur. « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Ils reconnaissent ainsi leurs besoins, le danger qu'ils courent, mais ils reconnaissent aussi qu'en Jésus, ils ont avec eux quelqu'un qui peut les tirer d'affaire, quelqu'un qui peut les sauver. La suite de l'histoire montre qu'effectivement, Jésus sauve et, je voudrais l'affirmer, il est toujours le sauveur du monde. Il suffit de crier à lui par la prière. Dans la vie, nous rencontrons tôt ou tard des tempêtes. Je ne parle pas simplement de ces bourrasques de vent et de pluie, mais de toute situation où l'on peut se sentir en danger, où l'on réalise que l'on n'est pas maître de la situation, où l'on se trouve face à sa fragilité et son impuissance. La nature peut se retourner contre nous. Nous pouvons subir le mauvais temps, les catastrophes naturelles, mais aussi la maladie et les problèmes de santé. D'autres soucis et d'autres dangers ont comme origine la méchanceté des hommes ou sont souvent même le résultat de notre propre méchanceté ou de notre égoïsme. Quoi qu'il en soit, nous pouvons vivre des situations où nous ne voyons plus d'issue, où nous craignons pour notre avenir, où nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort. Cependant, cet épisode des disciples traversant la tempête sur le lac est porteur d'espoir et doit nous inciter à nous tourner vers Jésus par la prière, car ce Jésus est source de tout secours et il répond aux prières des siens. Toutefois, nous avons en pensée une toute autre tempête qui devrait inspirer la crainte et nous pousser à chercher, par la prière, le secours de Jésus et son salut. Il s'agit de la tempête du jugement de Dieu. La nature déchaînée ne sert que de petits signes avant-coureurs à ce jugement. La colère de Dieu s'abattra contre celui et celle qui pratique le mal. Et nous sommes tous, sans exception, coupables. Qui seul peut apaiser la tempête de la colère de Dieu? Jésus. Tout comme Jésus a apaisé les vents déchaînés sur le lac, il peut mettre à l'abri du jugement tous ceux et toutes celles qui font appel à lui et qui cherchent en lui le salut par la foi.
Cette tempête décrite dans les évangiles nous parle de la fragilité de la vie et nous amène à réfléchir sur le sens de la mort. La présence de Jésus dans la barque nous rappelle vers qui se tourner afin de trouver le salut. Et nous ne pouvons que vous encourager à lui faire confiance.
La prochaine fois, nous lui demanderons en quoi les activités humaines peuvent aggraver les catastrophes naturelles et leurs conséquences. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.